nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachés à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Focus vous propose dans cette nouvelle émission de vous intéresser à la nouvelle politique universitaire en Guyane. Actuellement, ce pôle universitaire est regroupé par l'Université des Antilles, qui comprend la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Alors si la Martinique et la Guadeloupe sont à des distances raisonnables l'une de l'autre, en revanche, la Guyane est très éloignée de ces deux territoires et il semble que les spécificités guyanaises soient telles qu'il devient aujourd'hui important de créer une structure universitaire propre au pays. Alors quelles sont ces spécificités de la Guyane qui justifient un fonctionnement propre et comment crée-t-on une université? C'est ce que nous allons voir en compagnie de notre invité Jacques Blamont, c'est lui qui a pris la direction de ce vaste chantier. Jacques Blamont, bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 6, membre de l'Académie des sciences de France, des États-Unis et d'Inde. Vous avez été le premier directeur scientifique et technique du CNES en 1962. Vous êtes actuellement conseiller du président du CNES, Centre National d'Études Spatiales. Et nous vous devons notamment les premiers satellites français et l'installation de la base de Kourou en Guyane, justement là où nous posons nos jalons. Est-ce cet apport scientifique historique, l'installation du centre spatial par le CNES qui vous vaut aujourd'hui le fait de prendre les rênes de la refonte de ce système universitaire en Guyane, Jacques Blamont?
Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à cette question, mais je vais vous indiquer la séquence des événements et puis vous en conclurez ce que vous voulez. Il se trouve effectivement que j'ai été le premier directeur scientifique et technique du CNES depuis entre 1962, quand cet organisme a été créé, jusqu'en 1972. Et il m'est venu à l'idée, en 62, d'utiliser la Guyane comme champ de tir. En effet, nous avions un magnifique champ de tir en Algérie, à Colombéchard, où j'ai beaucoup travaillé et où nous avons lancé nos premiers satellites français. Mais en 1962, l'Algérie est devenue indépendante. Et donc, en tant que responsable, au fond, de tout le développement spatial en France, technique, j'étais obsédé par le problème du champ de tir. Et je pensais qu'il ne fallait pas rester en Algérie. Les Algériens souhaitaient, ils voulaient que nous restions, mais je pensais, et j'ai fait passer cette conviction à mes chefs, qu'un champ de tir est, disons, un outil régalien. Il faut qu'il soit placé sur le territoire national. Donc l'essentiel, c'était de trouver un endroit où il y aurait un drapeau français. Donc, s'est trouvé que j'ai été en mission dans l'été 62 en Argentine pour négocier un accord de coopération spatiale avec le gouvernement argentin. Et en survolant le continent sud-américain, m'est venue l'idée que la Guyane résolvait notre problème. Et donc, j'ai proposé cette affaire au CNES, qui s'en est entiché. Et le directeur général du CNES, le général Aubinière, a voulu en faire absolument son affaire personnelle. Et avec beaucoup d'intelligence, il a convaincu le Premier ministre Pompidou. Et ça a été décidé en 64. Bon, alors maintenant, je vais vous parler de la Guyane. Alors, la Guyane, c'est un grand pays. C'est aussi grand que le Portugal. Et lorsque nous sommes arrivés en Guyane, en 65... il y avait 40 000 habitants.
Très, très peu d'habitants, oui.
Alors, ça veut dire que le pays était vide. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles il nous a paru un bon choix. Parce qu'étant vide, nous pouvions faire à peu près ce que nous voulions. Un trait de plume nous a donné 120 000 hectares. Les 120 000 hectares du bagne, qui appartenaient au ministère de la Justice. Et donc, il lui a suffi que le gouvernement décide de faire un chantier en Guyane pour qu'on puisse prennent le territoire du bagne et on nous le donne. C'est ainsi que l'île du Diable est notre propriété à l'heure actuelle. Tout le bagne est devenu la propriété du CNES. Alors, la Guyane s'est soudain mise à accélérer son développement. D'abord, il faut comprendre que c'est la France, c'est-à-dire que le niveau de vie est français et beaucoup supérieur à celui de tous les territoires avoisinants. Et donc, il est une source d'attraction. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens pauvres qui sont des citoyens des pays avoisinants comme le Brésil, le Suriname, la Guyana, ex-Guyane britannique, Haïti, la Colombie, qui veulent profiter de ce niveau de vie élevé qui est en fait subventionné par vous et moi, par le contribuable français, et qui arrive. Et donc le résultat, c'est que des 40 000 habitants du début, nous en sommes maintenant à 230 000. Et ces 230 000 ont un taux de, disons, d'accroissement très important, de 4% par an. Et donc on compte que vers 2050, 2040, il y aura 650 000 habitants en Guyane. Par exemple, Saint-Laurent-du-Maroni, qui avait 5 000 habitants quand nous sommes arrivés, sera une ville de 150 000 habitants en 2050. Et alors, ceci pose un très grand nombre de problèmes, cette croissance, puisque la Guyane ne produit rien du tout. Il n'y a aucune production agricole, aucune production industrielle. Il n'y a uniquement que des assistés, des contribuables. Il y a 26% de chômeurs.
Vous y allez très fort quand même.
Pardon ?
Vous y allez très fort.
26% de chômeurs, 10% de RMistes, 40% de fonctionnaires. Vous voyez que ça fait pas loin de 75 à 80%. Si vous ajoutez, mettons, 10% du spatial, qui sont aussi donc des fonctionnaires au fond, bien vous voyez que pour l'économie réelle, il ne reste plus grand monde. Seulement 10% de la population. Et donc, ça ne durera peut-être pas toujours. Et un des problèmes, c'est que chaque année, il y a 4000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Moins de 1000 emplois sont offerts. Et sur ces 1000 emplois, il y a moins de l'ordre de 500 à 600 jeunes qui sont qualifiés pour effectivement trouver un emploi. Donc, il y a un problème considérable de formation. Et, disons, le niveau des études est extrêmement bas. Il n'y a que 2% des gens qui arrivent au niveau Bac plus 2. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un problème de qualification d'emploi.
Alors, qu'est-ce qui ne marche pas ? Est-ce que c'est véritablement le problème de l'université ? Ou alors, encore un peu plus tôt, le problème peut-être
C'est le problème de la population. Vous avez la moitié de la population qui est étrangère à l'heure actuelle. La moitié de la population étrangère.
Mais ils ont quand même accès à l'éducation, ils ont quand même accès aux écoles.
Oui, c'est exact, mais il n'y a qu'environ 36 à 37% de chaque classe d'âge qui arrive au baccalauréat, alors qu'en France, c'est 70%. Donc, il y a la pauvreté, il y a aussi certainement l'inadéquation du système de formation et d'éducation. Jusqu'en 1996, il n'y avait même pas de recteur en Guyane. On a créé un rectorat sous la pression de la rue lorsqu'il y a eu des émeutes créées par des lycéens qui ont été jusqu'au tir à balles réelles sur le préfet. Et donc la création du rectorat s'est faite en catastrophe. Alors en 92, on avait créé une petite unité universitaire qui dépendait de l'Université des Antilles.
Au sein du CNES, vous aviez créé justement cette entité ?
Non, ça a été fait avant que je m'occupe de ça. Donc il y avait une petite chose, et cette petite chose vivotait mal, très mal, parce que les Antilles ne s'intéressent pas du tout à la Guyane. Il faut comprendre que c'est très loin, c'est à 2000 kilomètres. Alors la natalité est inverse là-bas, la croissance est nulle ou négative. Il y a 400 à 500 000 personnes qui vivent en Guadeloupe et 400 à 500 000 en Martinique, à peu près. Et donc, avec la croissance que je vous ai indiquée pour la Guyane, on voit que la Guyane va devenir beaucoup plus importante que Martinique ou Guadeloupe. Et c'est donc pas tout à fait normal qu'une université ou une structure universitaire soit gérée à partir d'un endroit qui est à 2000 km. Alors les Guyanais se plaignaient beaucoup de ce que pour acheter une gomme, ils étaient obligés d'attendre une autorisation qui ne venait jamais. Alors les élus ont protesté et en 99, le ministre Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, s'est souvenu que j'avais joué un certain rôle dans la création du champ de tir, donc que je connaissais bien la Guyane, et il m'a confié une mission qui consistait à lui proposer la création d'une structure universitaire qui irait vers une autonomie par rapport aux Antilles. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé 5 mois à consulter beaucoup de gens et je lui ai proposé la création d'une structure que j'appelais le pôle universitaire de Guyane, car j'ai pensé qu'il était impossible de créer une université classique dans une situation tout à fait évolutive. Si on avait nommé des professeurs comme on le fait dans l'université ordinaire, eh bien ils seraient là pour 30 ou 40 ans et il n'y aurait aucun Guyanais, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pratiquement pas de Guyanais qui ont des diplômes. Et donc, ça voudrait dire que pendant 30 ou 40 ans, aucun Guyanais, alors que la population irait jusqu'à 600 000 personnes, ne pourrait devenir professeur.
Donc, alors, il est important que la population là-bas s'approprie aussi le système tel que vous le concevez.
Et donc, j'ai fait une proposition. Ce pôle universitaire, c'était ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public et qui serait accolé à la structure universitaire déjà existante, à laquelle on ne peut pas toucher parce que la loi de 84, qui a été un peu modifiée en 2007, mais enfin pas beaucoup de ce point de vue-là, elle impose que tout ce qui touche à la gestion des personnels, professeurs ou autres, d'une part, et d'autre part à la délivrance du diplôme, soit, tout ça, ça soit confié aux universités classiques. Donc là, on était obligé de garder la petite structure locale de l'Université des Antilles pour remplir cette fonction. Mais à côté de ça, j'ai proposé donc la création d'un groupement d'intérêt public qui permettrait de faire toute une série de choses, c'est-à-dire essentiellement d'apporter une coloration locale à cette université qui n'existait pas jusqu'à présent. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'intérêt du GIP, mais il faut dire que depuis qu'il a été créé, il a permis la construction d'un grand campus et qui a accueilli 3000 étudiants l'année dernière, ce qui n'existait pas avant.
Alors, sont devenues vos propositions lorsque Claude Allègre vous a missionné justement pour faire cet état des lieux?
Alors, j'ai présenté ma proposition à monsieur Claude Allègre, cette proposition donc d'un GIE, dans laquelle il y avait toute une série d'innovations. En particulier, je souhaite toujours un partenariat très étroit avec le parc national qui n'existait pas encore et qui existe maintenant et qui couvre une immense superficie de forêt vierge primaire, mais aussi des choses plus originales comme les partenariats avec des activités culturelles, le sport, la danse, la musique, les beaux-arts, le cinéma. Et alors, l'idée étant que, comme il n'y a rien à Cayenne, il faut créer une culture en même temps qu'on crée une formation. Et je peux vous dire que cette idée ne plaît pas. Elle ne plaît pas du tout aux universitaires qui considèrent ça comme tout à fait irritant que l'on puisse faire abriter par université des activités comme la peinture, par exemple. Parce que moi, je pensais naturellement aux Haïtiens clandestins présents à Cayenne. Alors, vous savez qu'à Haïti, il y a une grande école de peinture.
Sein même de l'université, votre projet n'était pas forcément...
Oui, c'est ça. Il faudrait trouver, et ce n'était pas difficile à imaginer, un partenariat. Alors, quand j'ai présenté mon rapport à M. Allègre, il l'a jeté. Et parce que j'ai cru comprendre que ce qu'il voulait, c'était que je lui propose une sorte d'annexe du champ de tir. Et c'est pour ça qu'il m'avait demandé. C'est ce qu'il a dit en public, qu'il fallait que la structure universitaire, elle devait être liée au champ de tir. Et moi, je pensais le contraire. Je pensais que le champ de tir est très bien, très important. Il joue un grand rôle dans la vie économique de la Guyane. Mais justement, il faut trouver une sorte d'équilibre avec quelque chose d'autre qui devrait être ce pôle universitaire. Et donc, c'est pour ça que je voulais lui donner une composante culturelle. Mais je n'ai même pas eu l'autorisation de présenter mon plan au ministre qui a dit que c'était une usine à gaz, qui ne voulait pas en entendre parler. Mais il s'est trouvé qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup aimé mon rapport, avec qui j'avais travaillé pour le concevoir. C'était les élus. Les élus de la région, du conseil général et les parlementaires. Alors ces élus ont réuni ce qu'ils appellent le congrès là-bas, c'est-à-dire le conseil général et le conseil régional. Et par 42 voix sur 47, ils ont demandé l'application de mes idées et la création du pôle universitaire. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, M. Allègre a chuté et il a été remplacé par M. Jacqueline, que je ne connaissais pas, mais qui a été convaincu par les élus au bout de quelques mois. Et il a fait une conférence de presse et j'ai appris par les journaux qu'il avait annoncé qu'il appliquait ce qu'il appelait le plan Blamont.
Donc un changement de ministre peut justement...
Voilà, c'est ça, exactement. Peut-être souvent ça porte un vent nouveau. les choses qui se bloquent se débloquent. En tout cas, c'est arrivé comme ça. Et donc, comme j'avais fait prévoir n'importe comment, et le ministre l'avait accepté n'importe comment, les crédits dans le plan État-région, eh bien, ça s'est construit. Et donc, maintenant, c'est en route. Mais, malheureusement, les Guyanais, l'année dernière, se sont imaginés qu'ils pouvaient aller beaucoup plus loin. Et puis, alors, ils ont fait une proposition pour une extension de, disons, de l'autonomie, qui a été refusée. Et en même temps, pour forcer la main au gouvernement, ils ont décidé de ne pas renouveler le pôle universitaire. Et donc, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient et le pôle universitaire a été dissous. C'est là où nous en sommes. Alors, les élus avec lesquels je suis resté assez ami, et surtout le président de région, M. Rodolphe Alexandre, m'ont demandé d'essayer de rétablir la situation, de recréer un nouveau pôle universitaire et de lancer une dynamique qui permettrait de mettre en place tout un enseignement multiple, justement, selon mes idées, la culture, etc.
Mais alors, renouveler le pôle universitaire, c'est pour les programmes ou c'est pour justement
non,
relancer tout ce qui est autour ?
Non, les programmes sont définis par l'université, mais le pôle universitaire aurait une grosse influence parce qu'il dispose de moyens financiers et puis aussi il regroupe tous les acteurs importants. Au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un groupement d'un certain nombre d'administrations et de structures, par exemple des organismes de recherche comme le CNRS, le CNES, le Parc National, et puis alors aussi l'État, les communautés de communes, les communes, la région. Tous ces gens-là se regroupent pour financer des actions locales et donc pour l'université. Et c'est comme ça qu'on a créé le campus. Le campus, il a été payé par l'État sur le fonds de l'éducation nationale, en réalité. Mais il n'aurait pas été créé s'il n'y avait pas eu une sorte de forum, de groupe de pression.
Alors l'émission se termine juste une minute. Je crois que vous allez assez régulièrement à Kourou, en Guyane. Comment se profilent les choses là, pour l'avenir à court terme pour l'université?
Eh bien, j'espère qu'on va rétablir le pôle universitaire, bien que ça soit très très long et très difficile. Les démarches sont très compliquées. Donc, c'est en route. Et puis, alors, nous venons sur l'initiative du président de région, nous venons de tenir des assises de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, titre trouvé par Madame Valérie Pécresse, quand elle est passée par Cayenne le 15 février dernier. Ces assises ont regroupé 200 personnes qui sont les gens qui comptent en Guyane et qui ont fait une série de suggestions. Ces suggestions vont être publiées dans quelques jours. Et j'ai demandé, obtenu la création d'un comité de suivi qui va prendre toutes ces suggestions et qui va les mettre en musique, faire une feuille de route et s'assurer qu'elles sont vraiment mises en application. Donc, madame le recteur a accepté d'être le président.
Eh bien, je vous remercie, Jacques Blamont, d'être venu nous donner ces détails concernant la Guyane et son université. Merci à vous et j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
C'est moi qui vous remercie de bien vouloir m'écouter.